Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Oula.
Et ça m'énerve à un point, je me dis comment c'est possible de faire des trous aussi parfaits.
Mais il n'y avait rien de drôle là.
J'ai le droit de pas vraiment travailler,
c'est vrai.
Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette. La branlouille.
Oh. Ah mais c'est Secret Story, sans les caméras.
Waouh.
Oh putain, elle MK.
C'est parce que t'as l'air bourré alors que tu vois jamais.
L'alcool est dangereux pour la santé, attention.
Il faut pas qu'on raconte trop notre vie.
Sûr. Le but, c'est
que ça reste intéressant.
Vous avez envie de kiffer, bah, m'écoutez pas.
Ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
Hello.
Bonjour et bienvenue et ça sature dans l'épisode 202 de Laisse-moi kiffer. C'est le retour d'Aïda Djoupa.
Je vous ai manqué. Hein.
Et oui, à Itremadea.
Je suis partie un épisode.
Tu es partie 5 épisodes en ressenti LMK. La personne la plus chantante de cette émission et c'est également le moyen de... Oh là 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 là, il va être compliqué cet épisode.
Si ton cerveau il a pris.
Et exactement, j'ai le ventilo sur moi, mais vraiment je pense que mes neurones se sont envolés du coup. On accueille du coup Coralie aujourd'hui pour la première fois dans Laisse-moi kiffer.
Hello hello.
Un accueil finalement dans l'acclamation générale.
Bonjour Coralie.
Coralie qui du coup gère nos réseaux sociaux sur Mademoiselle et qui reçoit régulièrement des insultes de personnes. Et donc il faut respecter rien que pour ça parce qu'elle a une patience que nous n'avons pas finalement.
Et juste respect au CM en règle générale.
Oui c'est vrai. Tout à fait. Vous écoutez donc le podcast du kiff et de la digression où quatre chroniqueurs, chroniqueuses de Mademoiselle partagent leur bonne humeur autour d'une table ou enfin un simili de table. C'est un meuble télé ici. Car la vie est belle. Je suis Mathis Grosso, je suis responsable des podcasts chez Mademoiselle et j'ai autour de moi une bande de doudingues que j'accueille donc avec une question qu'Aïda m'a soufflée. La question « Le monde veut savoir, quel mariage êtes-vous » Coralie, quel mariage es-tu ?
Ah, carrément, genre, je commence.
Ah, oui, tu ouvres le bal, hein. On y va.
Le mariage que je suis. Est-ce que je peux faire la grosse relou en disant, genre, un mariage sans enfant déjà, de 1 ? Genre, le mariage.
C'est pas une relou, hein, c'est une condition comme une autre.
Franchement, genre, s'il pouvait ne pas y avoir d'enfant, ce serait merveilleux.
Il y a bien des parcs sans chiens, alors franchement, à ce stade.
Ouais, exactement, je comprends pas d'ailleurs.
Quel est le rapport ?
Le rapport, c'est que j'ai écrit un article sur Ruby et que je le cale comme je peux.
Placement d'articles.
Mais non, mais on fait pas de parcs sans enfants, alors qu'on fait des parcs sans chiens. Pourquoi on fait pas... peut-être qu'il y a des mariages sans chiens. Bah, je veux des mariages sans enfants, comme toi, Coralie.
Ouais.
C'est
avec
assez
des chiens,
en réalité.
De quoi, les mariages sans enfants ?
Ouais.
Ah. Tu dois les déposer à l'entrée, l'espace de nounou. Nounou.
Mais tu les retrouves ou c'est genre une aire d'autoroute ?
Ça dépend des mariages.
Ça dépend des parents.
Waouh, ok. Du coup, donc, ce genre de mariage.
Le genre de mariage sans enfant, VG. En fait, genre, je pense que je serais le mariage cauchemardesque de la plupart des Français et des Françaises. Le mariage bien relou avec de la musique niche. Pour faire encore un clin d'œil à ton article sur Ruby. Bon,
peut-être pour un contexte, du coup, j'ai écrit un article sur Ruby parce que Ruby me manque beaucoup. Pour rappeler les pires moments que j'ai passés en tant que propriétaire de chien. Évidemment, ça n'a pas marché à me rassurer sur son absence parce qu'elle me manque toujours autant. Voilà, on arrête les vagues sur ce chien tout de suite. Mais pourquoi, du coup, c'est quoi une musique de niche alors en mariage ?
Ah, mais tu sais, les musiques que... Genre le type d'artiste dont tu parles et les gens ils sont en mode « Ah non, je connais pas ». Et vraiment genre, je pense qu'il y aurait peut-être 2-3 personnes qui vibraient sur ma musique, mais c'est tout.
Hop.
Yes. Ça a repris brutalement.
Et on reprend, pardon.
J'étais pas prêt.
Excuse-moi.
C'était repris ?
Non, mais c'est repris, je fais du montage. Là, de toute façon, je peux dire top, ça va disparaître. Voilà.
Ou pas. J'aimerais que ça ne disparaisse pas.
Ça disparaîtra. Donc voilà, donc tu disais des musiques de niche. Alors c'est quoi tes musiques de niche de mariage ?
Mes musiques de niche de mariage. Là tu me poses une colle un petit peu. Je pense Halsey.
Oui.
C'est un peu genre badass et tout. Après je sais pas si ce serait trop contexte mariage. Je t'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ma playlist
badant,
de mariage.
Quand même.
Est-ce qu'un mariage, ça doit être joyeux? Sick of all these people
talking, sick of all this noise. Ok, donc un mariage banan sans enfant.
Vraiment la déprime, quoi.
Aïda, quel genre de mariage es-tu?
Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit que pour répondre à cette question, plutôt que d'essayer de trouver un mariage où j'étais déjà allée qui correspondait à ma personnalité, j'allais vous raconter mon mariage de rêve.
Ah bah vas-y, fonce.
Donc, je serai mon propre mariage qui aura lieu un jour, certainement, et qui aura lieu... dans un genre un peu sur un terrain vague, tu vois. Mais un terrain vague high level, genre une plaine en Toscane.
C'est quoi un terrain vague high level?
Bah une plaine en Toscane, tu vois, avec des collines, des arbres et tout.
C'est un chantier.
Mais
genre.
Pas un parc.
Un chantier en périphérie de Nanterre. Je te fais la version low budget en live.
Ce sera l'endroit où j'ai fait mes études de philo.
C'est vrai.
Non, c'est pas vrai, j'étais dans un très joli bâtiment à Nanterre. Et donc ce serait un mariage un peu chill, genre pas trop de discours et de cérémonies et tout parce que c'est un peu gênant.
T'as dit chill ou cheap?
Chill. Et aussi cheap parce que j'ai pas d'argent et que ce sera mon mariage donc je devrais le payer moi-même. Avec plein de musique. Pas forcément de la musique niche mais que de la musique que moi j'aime bien. Genre il y aura pas Bob Moran à mon mariage. Et il y aura des stands de poulet frit vegan et de champagne.
Wow.
Et tout le monde sera super bien habillé. Et moi, j'aurai des baskets en or.
Ouais, donc
et tout le monde me dira « Oh mon Dieu, tu ressembles à Beyoncé ». Voilà, ce sera mon mariage.
Un mariage fait donc de gens finalement grassement payés.
Grassement nourris.
Grassement nourris, c'est vrai.
Grassement hydratés. Ceci
dit, tu me donnes des cuisses de poulet vegan, je suis prêt à te dire que tu ressembles à Evelyne Thomas hein, à ce stade. Si
c'est
ça te fait plaisir.
Pas faux.
C'est pas un compliment du tout.
Si ça te fait plaisir. Chacun ses goûts.
Et voilà, c'est le genre de mariage que je suis.
Trop
à toi,
bien.
Anthony.
Eh bien, je ne sais même pas si je veux me marier, donc je ne sais même pas si je peux être un mariage, ou peut-être que ça veut dire que je n'existe pas. Mais
tu peux être une vibe de mariage. Quand on dit quelle gomme es-tu, t'es pas voué à devenir une gomme un jour, mais...
Quoi? J'adore effacer les gens. Non, je pense que je ferai un mariage en très très petit comité. Le mariage familial, voire tu préviens même pas tes parents, tu vas juste avec tes témoins. En plus, récemment, je lisais un bouquin pour mon club de lecture Livresse, L-I-V-R-E-2-S-E. Bref.
Voilà, on cale ça là.
Mais je crois qu'il est déjà raconté dans l'MK, non? Je sais plus.
C'est bon, possible.
Quoi? Mais en tout cas, pour ce club de lecture, récemment, on avait dû lire un bouquin qui s'appelle Mariage en douce de Ariane Chemin, qui est une journaliste du Monde. Mm-hmm. Et elle raconte dans ce bouquin le mariage en douce de Jean Seberg et Romain Gary. Et c'est un mariage en Corse, en secret défense, avec la complicité de plein de diplomates et de chefs d'État et tout. Enfin, c'était un truc de malade. Parce que c'était des grosses restas à l'époque et tout. Et en fait, je trouvais ça assez... Bon, hormis toute la dimension policière hyper compliquée de cette affaire-là, précisément parce que Jean Seberg avait plein de problèmes qui se sont aggravés ensuite avec le FBI et tout. Mais c'est une autre histoire. Lisez le bouquin si ça vous intéresse. Juste se marier en douce sans prévenir personne, je trouve ça assez stylé. Et j'aimerais, en fait, si je devais me marier, c'est vrai que je préviendrais vraiment un minimum de personnes pour payer le moins possible parce que je suis un gros radin. Mais soit je me marierais sans même le dire autour de moi, en fait. Genre, je ferais pas de faire part en mode grandiloquent avec un enterrement de vie de célibat et tout. Genre, juste, je me marierais avec mes témoins et basta cosy, quoi. Parce que les mariages avec 40 invités, c'est même
40 ça va,
oui,
c'est peu.
Ouais, c'est
très
ouais.
Vrai, mais 40 000 trucs à faire avant, 40 000
l'angoisse.
Trucs d'organisation à faire avec, mon Dieu, il faut trouver un traiteur qui convienne à tout le monde, il faut trouver un lieu, il faut trouver un food truck ou whatever, ou un DJ qui sache animer la soirée et tout, genre flamme monumentale quoi. Et tout l'argent, mais pour 48 heures de festivité max,
tu t'endettes
hors de question. Je peux pas supporter, je peux pas faire de rétro-planning dans la vie quotidienne alors pour un mariage, hors de question.
Ouais, mais une fois que t'as mis de l'argent dans la cagnotte des mariages de tous tes amis, il faut que tu récupères cet argent, donc il faut te marier.
Non mais je ferai une cagnotte. Je ferai une cagnotte, vous pourrez mettre, après le mariage, genre tous les gens qui diraient « Oh mon Dieu, j'aurais tellement aimé être là, je suis trop déçu », je dirais
« Bah, mets ta déception dans la cagnotte
». J'avais oublié cette histoire de la cagnotte où tout le monde a une Wonderbox ou un random où tu dors dans un arbre, enfin ça m'énerve.
Alors qu'on peut le faire gratuitement.
Bah oui, bah ouais. Dormez dans des arbres gratuitement.
À vos risques et périls. Hein.
C'est inconfortable. Hein, mais...
Je ne cautionne pas ce qui vient d'être dit.
Et toi, Mathis,
quel mariage as-tu ?
Eh bien, écoutez, j'ai été beaucoup de mariages très longs dans ma vie. J'ai fait énormément de mariages enfants et j'en fais peu en ce moment parce que j'ai pas des potes en âge de se marier ou mes potes ne se marient pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est plaisant parce que je déteste ça. Et les mariages que j'ai faits jusque-là dans ma vie, c'était beaucoup des trucs qui impliquait un DJ random, des jeux un peu gênants où tu vois ton daron manger du yaourt derrière une espèce de toile un peu chelou, enfin des trucs un peu...
Ah ouais, j'étais à un mariage il y a pas longtemps, super j'ai malaise. Vu Shakira qui chante Céline Dion, c'était vraiment dur.
Voilà, ce genre de choses.
On m'a demandé de faire ça.
Ce genre de truc de « Ah, donnez-nous un objet » et genre les gens ils doivent aller chercher du PQ, ils courent tous, ils sont comme des zinzins, voilà. Il est 21h, tout le monde est bourré, c'est l'enfer, il y a du Indochine à fond et ça finit en musette, je sais pas pourquoi, et c'est l'enfer. Donc je ne veux pas être ce mariage-là, je veux j'allais dire un mariage sobre en petit comité, mais comme Anthony l'a dit, il faut que je trouve autre chose, donc je serai un mariage avec du fast, avec du too much, des écrans qui rediffusent en direct sur Times Square, finalement mon union qui intéresse le monde entier, et finalement pourquoi pas.
Et des chapeaux.
Oui,
et
certainement pas d'entrée avec une chorégraphie, car je ne sais pas danser, vous le saurez, mais un DJ set sympathique finalement. On va dire un mariage qui finit en soirée techno, parce que c'est un peu marrant. Et que Madaron ne saura pas comment danser, et rien que pour ça, j'avoue que je jubile. Voilà, je ne sais pas quel mariage je suis, parce qu'en vérité, j'ai zéro envie de me marier, vous le saurez. Voilà, donc ne m'envoyez pas de demande, même si ça n'arrivera.
Ne le faites pas. Un truc qui t'arrive tous les jours, en
plus. Un lundi comme un autre.
Mais c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup depuis très longtemps, comment me demander en mariage. Et en vrai,
est-ce que t'accepterais surtout ?
Je pense que je refuserais, mais en fait j'aimerais pas me marier, mais j'aimerais beaucoup qu'on me demande en mariage, et si possible plusieurs fois, donc allez-y dans mes DM.
Wow.
Mais je vous conseille une pub très spécifique sur YouTube à checker facilement, vous tapez Cartier Musée Rodin, et c'est comme ça que je veux qu'on me demande en mariage. C'est, je vous raconte brièvement, c'est en gros,
oui, merci.
Un mec, puisque je vous ai piqué votre curiosité, c'est un mec qui fait une espèce de, comment on appelle ça, de chasse aux indices, aux trésors à travers le jardin du musée Rodin à Paris, qui est somptueux, vraiment, allez-y, même si c'est pas pour demander quelqu'un en mariage,
oui, c'est vrai qu'il est beau.
Juste pour le plaisir de l'art et de la nature. Du coup, il met quelques indices et tout, et elle va d'indice en indice à travers le musée Rodin, puis elle finit par rentrer dans le musée au-delà du jardin, et il la demande en mariage comme ça dans un couloir du musée Rodin, et je trouve ça absolument somptueux. Mais tous mes amis le savent, donc ils sont déjà briefés pour informer la personne qui voudrait me demander en mariage qu'il faut que ce soit comme ça, sinon rien.
T'imagines la pression du mariage après une demande comme ça ?
Mais t'es obligé de te marier dans le musée Rodin. Ah, de toute façon, tu dirais non ?
Je dirais non, mais si je devais vraiment me marier, ce serait au musée d'Orsay.
J'en étais sûre.
Ah ! Mon Dieu.
Alors que moi, ce serait à la Grande Galerie de l'Évolution, devant des squelettes de baleines, évidemment,
sur un terrain vague.
J'ai pas dit à Nanterre, j'ai dit en Toscane.
T'as dit cheap.
Petite question rapide, niveau demande en mariage, on est comment sur les demandes en public ici ? Qu'est-ce qu'on en pense ?
Nul.
Ah,
nul,
horrible.
Merci, super,
idée.
Formidable. On est tous d'accord, on enchaîne.
Enfin, après, s'il y a des gens qui ont été demandés en mariage en public ou qui comptent le faire avec d'autres gens qui ont envie que ça arrive, franchement, good for you. Et des fois, c'est stylé. Genre,
ne le faites pas en chantant, c'est tout ce qu'on vous demande.
L'histoire de... Je la connais pas, l'histoire de la meuf au cinéma.
Ok, je raconterai après, vas-y.
L'histoire des deux meufs qui se sont demandées en mariage en même temps. Vous vous souvenez, j'avais écrit un article là-dessus sur Mad. Un couple de meufs qui se sont demandées en mariage en même temps, toutes les deux, à la patinoire de Londres. Et elles avaient toutes les deux la bague dans leur poche. Et donc, t'en as une qui se met à genoux, qui tend la bague à sa meuf. Et sa meuf est genre trop émue. Et là, elle se met à genoux aussi, elle sort sa bague.
Contre Kems.
Et c'était trop mimes. Et ça, c'était en public. Et vraiment, c'était adorable. Et les gens autour, ils ont pété un câble. Genre, ils étaient trop contents. Ils les ont pris en photo et tout. Donc, en vrai, parfois, c'est cool les demandes en mariage en public. Mais juste, moi, ça me terrifierait qu'on me demande en mariage avec ne serait-ce que quelqu'un d'autre autour. Genre, même mon chat, ça me gênerait de ouf, quoi.
En vrai, la même demande en mariage sans public, sans la patinoire avec des gens dessus, dans l'histoire que tu racontes, ça aurait été quand même hyper adorable, en vrai.
Ouais, mais là, je pense qu'elles ont kiffé le cadre de la patinoire parce que c'était un peu romantique et mimes, ouais. Tu vois, genre faire du patin à glace en se tenant la main avec ta gosse, c'est quand même vraiment très cool.
Oui.
On se parait dans un Disney.
C'est vrai.
Quand on me dit demande en mariage en public, imagine le mec qui demande, quelqu'un qui demande en mariage dans un centre commercial ou
au stade.
C'est un flash mob. Ou
ah, mais oui,
oui.
Ah, l'angoisse.
Ah, mon Dieu.
Mais
le flash mob de l'UMP.
Mais tu sais, les trucs dans les stades là, vraiment l'enfer.
Les scam comme dans les films américains.
L'angoisse, c'est une pression monumentale en fait. C'est mettre la pression pour votre personne, partenaire, pour qu'elle dise oui en fait, cette personne. Et c'est vraiment, je trouve ça crime, j'as fuck quoi. Enfin,
ouais.
Mais faites ce que vous voulez. Hein. On ne juge pas.
À chacun son chacun.
Chacun son chacun, ouais.
Exactement.
Il y a une histoire comme ça qui a beaucoup tourné sur Twitter. Après, j'arrête de parler, promis, désolé. C'est une meuf qui allait au cinéma avec son mec pour voir un film d'animation. Et en fait, le début du film d'animation se passe pas du tout comme prévu. Et en fait, l'héroïne du film d'animation, eh ben, c'est la meuf en question. Son mec a refait le film, juste le début, en vrai, pour la mettre à l'écran. Et du coup, l'héroïne, c'est elle. Et en fait, le mec la demande en mariage dans le film, puisqu'il a, il s'est aussi dessiné lui. Et c'est incroyable. Et dans la salle de cinéma, il y a tout leur proche.
Oui, en fait, la lumière s'allume et les gens de la salle de cinéma, c'est tous leurs proches.
C'est incroyable.
Ouais.
Ça aussi, c'est grave mime.
C'est mignon, mi-cringe quand même.
Bah, moi, j'aimerais pas que j'en ai mes parents, tu vois.
Ouais, il y a des gens, en plus, des gens proches. Genre, il a demandé à beau-papa avant s'il pouvait prendre la main de madame, genre, ça me gêne.
Non, je pense qu'il l'a prévenu, juste.
Surtout en 2022 et autres. Enfin, généralement, c'est la discussion que t'as avec
son... Pas, peut-être qu'il a donné des moutons, on sait pas. Pardon. Vous donnez pas des moutons, vous, pour... À la bru. Bref, peu importe.
C'est une coutume normande ou c'est raciste, Mathis, que tu viens de dire?
Mais non, c'est le patois normand. Bon, je sais que je suis mauvais en accent, mais quand même, l'accent normand, je l'ai, merde. Est-ce que vous avez des commentaires, les petits amis? Non pas sur mon accent normand, mais des commentaires tout court. Alors, Coralie, du coup, je t'autorise à passer ton tour.
Je passe mon tour.
Les autres semaines, tu n'aurais pas le droit et tu serais virée sur le champ.
Pourtant, tu reçois plein de commentaires, quand même.
Ah, ouais. J'en reçois beaucoup, ouais. Oui.
Est-ce tu peux choisir.
Une petite insulte à nous partager.
Ah, qu'est-ce que j'ai... Oh là là, il y en a tellement. Pas très original en ce moment, j'avoue. Ça tourne plutôt sur bande de merde ou espèce de connasse mal baisée.
Ah,
C'est très sympathique, mais...
Charmant.
Est-ce qu'on peut bloquer des mots pour qu'ils soient juste ban par défaut avant même que tu puisses les voir?
Je crois, ouais. Je crois que tu peux maintenant sur Insta, en tout cas tu peux sur Facebook, sûr à 100%. Mais le problème, c'est qu'ils sont très ingénieux et qu'ils utilisent...
Des étoiles, des euros à la place de
E. Des chiffres et tout.
Yes.
Nos rageux ont du talent.
Aïda, est-ce que tu as des commentaires de gens qui ne sont pas des rageux et qui ont du talent?
J'ai un commentaire de quelqu'un d'extrêmement talentueux et de quelqu'un qui n'est pas une rageuse, puisque c'est... Je crois que je retrouve son prénom, parce que là, pour l'instant, j'ai son hâte. C'est Mathilde. Mathilde, je l'adore. Si vous avez suivi Laisse-moi kiffer, vous savez que je suis devenue la marraine de son vieux chat.
Oui.
Par le biais de nos volontés communes. Et voilà. Donc, elle a un vieux chat qui s'appelle Edgar the Grumpy Cat. Je suis vraiment la pire marraine. Il est tout vieux. Il a 17 ans. Il miaule comme ça. Bah, bah, bah. Et je l'aime plus que tout au monde. Et elle m'écrit... Mais j'ai reçu tellement de vidéos du miaulement d'Edgar, t'inquiète pas que je me suis entraînée.
On vous mettra le son du miaulement, tu vas m'envoyer la vidéo, ouais, comme ça je vais pouvoir prendre le son et le passer.
Je l'avais passé dans un live Twitch, mais je sais pas, faudra que je retrouve l'épisode.
Ce sera un nouveau jingle.
Anyways, donc Mathilde m'envoie un DM sur Instagram pour me dire « Hello Aïda, j'espère que ça va. Je pense qu'en tant que marraine, tu dois connaître l'état de santé de ton filleul et sache qu'il a fait un séjour chez le vétérinaire pas très rigolo. » Parce qu'avec ses chaleurs, il s'est déshydraté. Il était vraiment pas bien, mais il est rentré après 2 jours et 1 nuit sous perfusion. Plus sérieusement, si je peux profiter de Laisse-moi kiffer pour sensibiliser l'audience au danger de la chaleur pour les chats, et en particulier les vieux chats comme Edgar, s'il devient lent, il miaule différemment, que ses yeux ont l'air un peu enfoncés, qu'il vomit et ou n'arrive plus à boire ou à manger, c'est urgent de les amener chez le vétérinaire. Prenez soin de vos bêtes, ils n'ont pas demandé à être chez vous. Emoji tulipe. Aujourd'hui, du haut de ses 17 ans, Edgar a épaté la vétérinaire qui pensait qu'il ne passerait pas la nuit. Et j'ai des petites photos d'Edgar avec sa patoune sous perfusion.
Ok, j'ai envie de pleurer.
J'avoue, genre, j'ai un peu les larmes aux yeux.
Donc faites attention au coup de chaleur pour vos animaux. Je sais que tout le monde fait attention parce que en vrai, je sais que les LM kiffeurs kiffeuses, les LM crado, les LM cœur, vous aimez vos animaux. Mais voilà, il fait des températures assez hallucinantes. Nos animaux ont un peu l'âge ou, comme dirait mon voisin, un pyjama. N'hésitez pas à leur passer des petits glaçons dessus pour les refroidir. Mais c'est ce que je fais avec mon chat parce que j'ai essayé de lui acheter un tapis réfléchissant et ça marche pas parce qu'il est bête et qu'il sait pas qu'il faut s'asseoir dessus. Donc je lui passe des glaçons sur la tête, ça le rend très heureux. Et j'ai appris une autre technique qui est que si tu mets de l'eau dans un ballon de baudruche, que tu mets le ballon de baudruche au congélateur, ça te fera un glaçon rond que tu peux ensuite poser dans sa gamelle et comme ça le chat peut se frotter le visage au glaçon.
Il y a vraiment des chats qui font ça.
C'est ce qu'on m'a appris apparemment, ça marche très bien et ça évite d'aller chercher des glaçons toutes les heures et de caresser ton chat avec parce que quand t'as un travail, c'est compliqué quoi.
C'est cool.
Voilà, c'était l'instant chanicule. Bisous.
Ah, c'est trop mignon.
Incroyable, la chanicule. Anthony, est-ce que tu as des commentaires?
Oui, j'ai des commentaires, notamment des gens qui me disent qu'ils ont découvert, grâce à un épisode précédent de l'AMK, le podcast Les Mots Bleus, qui est vraiment super, donc allez-y, écoutez-le. Et je voulais vous lire un autre commentaire qui vient d'une personne qui s'appelle H, qui me raconte, je cite, « Anthony, bats-toi, finis les citations de Roland Barthes, mon héros académique. Il a écrit beaucoup trop de choses sur beaucoup trop de sujets qui touchent tout le monde pour qu'il soit réduit à l'image d'un théoricien difficile, chiant et prout-prout qui lui colle à la peau. Bref, merci pour tes kiffs. Des bisous à tous les LM kiffeurs, kiffeuses, kiffeureuses. PS, une preuve de ma passion pour cet homme. Mes parents m'ont amené exprès à Cherbourg pour cette statue et cette personne m'a envoyé une photo d'elle à Cherbourg avec une statue de Roland Barthes. Et donc,
c'est
je suis
cool.
Totalement trop heureux de ce commentaire. J'adore Roland Barthes, voilà. Et si vous ne savez pas par quel bout commencer, je vous recommande une lecture très accessible, très belle, très solennelle aussi. Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes.
La base.
C'est un livre, je crois que c'est l'un des livres que j'ai le plus offert autour de moi. Parce que vraiment, c'est des définitions, c'est sous forme de pseudo-dictionnaire de personnes amoureuses qui racontent ce que c'est que l'amour, l'absence, le manque, le désir, ce genre de choses. Et c'est vraiment somptueux, vraiment, c'est une écriture blanche, hyper accessible, très poétique, pleine d'ellipses, pleine de n'importe qui peut se projeter dedans, quoi. Donc allez-y, lisez n'importe quoi, hein, que ce soit Roland Barthes ou autre chose. Lisez un peu plus de poésie dans la vie, voilà. On en a tous
c'est
tout besoin.
Absolument.
Et toi Mathis, est-ce que tu as des commentaires?
Oui, alors j'ai des commentaires. D'abord, j'en ai un de la part de Marie Vrignot qui a reçu un message et du coup qui veut passer une dédicace par mon truchement. Je ne sais pas si j'ai bien utilisé le mot truchement, je le trouve un peu rigolo. Du coup, elle m'a raconté que la semaine dernière, elle était à Marseille pour un déplacement professionnel et quelqu'un l'a interpellée en disant « Excusez-moi, vous êtes Marie Vrignot ?»« Oui, pourquoi ?»« Parce que j'écoute LMK. » Et c'était une LM Crado qui m'a reconnue à la voix dans la gare. C'est quand même ouf. Elle adore l'émission. Pourriez-vous lui faire un big up prochainement? Son petit nom, c'est Élise. Donc Élise, on te fait un big up de la part
big
de Marie.
Big up, Élise !
Comment tu fais pour reconnaître des gens à la voix? Vous saurez que quelqu'un m'a reconnu à la piscine, ce qui est quand même un moment humiliant de ma vie, parce que bah, comme tout le monde, je porte un bonnet de bain, et comme tout le monde, je suis moche et j'ai la marque de mes lunettes sur le... Enfin, c'est pas le meilleur moment de ma vie, a priori, même si je suis très heureux là-bas. Et du coup, la personne m'a fait... J'étais assis sur le bord de la piscine et elle me tape dans le dos, elle me dit, excusez-moi. Et du coup, là, je suis merde, j'ai fait une connerie. Et tu sais, moi, je suis en plus, je suis un bon élève, je suis une merde, une figure d'autorité. Et la personne me fait, vous êtes Mathis. Moi, je dis, ça dépend. Enfin, c'est une garde à vue de combien
Mathis.
De temps. Et du coup, elle m'a fait, parce qu'en fait, j'écoute LMK et je te mets, mais quoi? Donc voilà, vous saurez que.
En speedo à la piscine, c'est vraiment super.
Exactement. Voilà, on a, je suis la neck bof de star de quelqu'un.
Mais tu dis figure d'autorité, c'était un maître ou une maîtresse nageuse?
Oui. J'ai pas précisé, pardon. C'était une maîtresse nageuse, donc j'avais très très peur. J'étais en mode, oh non, j'ai nagé la brasse dans un couloir où fallait pas nager la brasse. Voilà. Mais j'ai des commentaires. J'ai un commentaire de Thibosh. Je vais aller très vite parce que j'en ai deux, pardon. Thibosh qui m'a dit, Hello Mathis, je viens d'écouter les épisodes sur les Francofolies 2021. Donc ça, c'est le podcast dont je vous ai parlé la dernière fois qui s'appelle La Tournée. Et comme je reviens tout juste des Francofolies, j'avais refait un petit coup de promo parce que pourquoi pas. Et je voulais te dire que c'était génial. J'ai tout aimé, les interviews, les personnes et surtout les anecdotes. Un grand merci pour ce podcast, donc La Tournée, et hâte d'écouter les autres de votre studio. Vos voix sont incroyables aussi. Quand il dit vos voix au pluriel, c'est parce qu'il y a la voix de Camille Dargaud qui est une personne de talent et la maman de Ruby, vous le savez beaucoup trop maintenant. J'ai adoré et rien à voir et je t'adore dans LMK, ton humour est incroyable, je rigole à chaque fois, alors ça c'est gentil. Et j'ai un autre commentaire, j'essaie d'aller vite pour pas monopoliser 37 minutes de parole de léchage de...
Tu seras pas la première personne à avoir monopolisé 37 minutes de parole dans cet épisode.
C'est pas faux. Pauline au grain qui me dit « Mathis, merci pour ce dernier épisode de LMK ». Donc elle fait référence à l'épisode 201, donc celui de la semaine dernière qu'on a fait avec Marie et Anthony. « Tout en douceur, en nostalgie, en bienveillance, vous étiez parfaits tous les trois. J'ai explosé de rire minute 2 avec les petites billes des Beatles ». Donc voilà, en référence à des petites billes de mozzarella de Marie, qui était son genre de mozzarella, ce à quoi j'ai répondu « Ah oui, comme la chanson des Beatles ». Et bon, bref. « J'adore les riquiquifs », me dit Pauline. « Toujours le meilleur sur les jeux de mots. Je n'en peux plus. Azab, je vais écouter Studio Clémentine aussi. Bon, pardon, je fais un double point promo. Bisous, bisous. Voilà, j'arrête avec les commentaires et ce point promo qui finalement s'éternise.
Si vous voulez envoyer des commentaires à Mathis et qu'il soit lu dans ce podcast, vous devez impérativement faire
absolument
de la promo pour ses autres projets.
Je crois que ce sera dans mon prochain bingo, c'est Studio Clémentine. Je ne l'avais pas mis la dernière fois, mais en vrai, j'avoue que je le mentionne beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Les amis, c'est le moment de passer à une anecbof de star. Et c'est une anecbof d'extrême droite. Nous allons passer à un
non
super bon moment.
Oh là 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 là. On s'attend au pire.
J'arrive tout de suite, j'essaie de la retrouver à l'aide de mon gros pouce. Et non.
Faire ça.
Alors. C'est vrai que Mimi a fait ça. Vous saurez que Aïda, pour l'audio guide, met ses pieds sur la table. Mais non, je vais pas couper ce moment. Alors, j'ai Billy le génie qui me dit « Bonjour, j'ai une petite anecbof, très bof de star. En ce 12 juin 2022, donc qui date un petit peu, 8 jours après mon 18e anniversaire, joyeux anniversaire très en retard, je me suis rendu à mon bureau de vote préféré pour voter pour la première fois accompagné de mon papa. C'est un moment très mignon. » Il me demande pour qui je compte voter. N'attendant pas de réponse sérieuse de ma part, je lui réponds « Thibaut Simonin. Pardon, je peux mal prononcer son nom, j'ai le droit, c'est un droitiste. Car on était juste à côté de son affiche. Et voici que j'entends juste devant, derrière moi, quelqu'un qui dit « Lui-même !» Car il était juste derrière nous. Quelle coïncidence folle ! Thibaut Simonin est donc le candidat de ce fameux Éric Zemmour pour qui je n'ai évidemment pas voté. Mais, je retrouve ma ligne. Bonsoir. Mais je crois qu'il a cru que j'étais sérieuse, because je suis plus blanche que blanche peut-être. Voilou, voilou, j'espère que je te l'ai envoyé au bon endroit, tu me l'as envoyé au bon endroit. Les messages pour les anecdotes de ça, vous pouvez les envoyer partout. Vous pouvez les envoyer sur le compte at laisse-moi kiffer, vous pouvez les envoyer sur nos comptes perso et vous pouvez nous envoyer par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Voilà pour les anecdotes de star, et c'est une anecdote très bof, de pas vraiment une star.
J'essaye de trouver un truc, ouais, mais il y a rien qui... Une ouais, anecfaf je n'ai pas de...
Ouais, chercher un mot qui veut dire nazi, mais qui ressemble à star, et c'est compliqué. Si vous trouvez à la maison un jeu de mots pour les anecdotes de star spécial facho, n'hésitez pas.
Sinon, on n'en fait pas trop. Après, ouais, merci Pauline de nous avoir envoyé ça. Parce que j'imagine à quel point ça a dû être vraiment super gênant.
Ouais, de ouf.
D'avoir le gars qui se retourne et t'es là...
En plus, il est fier, c'est lui-même. Toi.
Bah ouais.
Mais en fait, personne t'aime, Pélo. Fin.
Il a vraiment dû être trop content de se dire qu'il avait genre sauvé l'âme de quelqu'un, quoi.
Ça se trouve, il est rentré chez lui, il l'a raconté à sa femme en mode...
Oh là là.
Je suis une star.
Sachez qu'être connu, ce n'est pas toujours être connu pour les bonnes raisons.
Mais raconte-nous quel score il a fait finalement, ça m'intéresse.
Ah bah je sais pas, bah écoute, ce sera à suivre dans un prochain épisode, restez connectés, dans le prochain épisode on vous balancera le score de Thibaut Simonin aux élections.
Peut-être qu'il y a eu une personne dans ce bureau de vote qui a voté pour lui et qui se dit que c'est elle, tu vois, il se dit que c'est Pauline.
Ou lui-même.
Ah oui c'est vrai, il y a lui aussi.
Oui,
peut-être, peut-être même que Thibaut Simonin est un LM crado, que sais-je. Va-t'en, va-t'en, nous pourrons nous passer de cette écoute, merci.
N'est pas le bienvenu.
J'ai mifié le produit pour cabinet qui est bon solde, alors je le rappelle. C'est l'occasion d'enchaîner sur les kiffs, qui est le sel de ce podcast, car nous avons bu trop d'alcool en ce temps caniculaire, il ne faut pas.
Ah bon ?
Enfin non, on n'a pas bu trop d'alcool, mais on n'a pas envie d'alcool. Vous avez compris ce que je voulais dire, etc.
Coralie,
tu
vas
y arriver.
On n'a pas compris.
Alors je refuse de faire la transition après ça.
C'est pas grave parce que la transition elle va être faite par Marine Normand qui va faire un jingle. Vous êtes trop contents de ce moment. Jingle.
Je me présente, je m'appelle Jean Kiff, ouais. Je voudrais bien réussir ma vie, être humain. Être beau, gagner de l'argent. Puis surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que j'écoute LMK. Pam, 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 pam.
Waouh, merci Valentin.
Coralie, quel est ton kiff, le premier kiff du reste de ta vie, si je remplace bien Mimi.
Le premier kiff du reste de ma vie. Alors, je vais partir dans des dramas lesbiens, vous n'êtes pas prêts. Il y a une chanson qui est sortie hier de l'artiste américaine Fletcher, qui s'appelle Becky's So Hot. Et il y a une histoire derrière, en plus du fait que la chanson est vraiment très bien. C'est l'histoire de Fletcher et de son ex Shannon Beveridge, qui est une youtubeuse américaine qui a fait vachement bouger les choses pour la communauté LGBT à l'époque, quand elle a fait son coming out sur YouTube. Et elles sont sorties ensemble toutes les deux pendant quelques années. Elles ont fait des projets en commun, que ce soit musicaux ou au niveau des vidéos, enfin bref, voilà. Et elles se sont séparées, Fletcher a fait sa vie de son côté, Shannon a fait sa vie de son côté aussi. Elle a rencontré une meuf qui s'appelle Becky et qui est sa nouvelle copine. Et Fletcher qui est très, comment dire, comment le traduire en français ? Petit.
Mesquine.
Insolente.
Casse-burne.
Ouais, qui est un peu genre sassy petit, je sais pas trop comment le traduire, mais ouais, un petit peu sournoise, tout ça. Elle a stalké, on le fait tous, hein, elle a stalké le profil de la nouvelle meuf de son ex, et elle s'est rendue compte qu'elle était quand même vachement belle, voilà. Et elle a décidé d'écrire une chanson pour elle, et de dire qu'en gros, dans la chanson, elle voulait grave se la taper. Donc, pour la faire courte, elle a écrit une chanson sur le fait de vouloir se taper la nouvelle meuf de son ex. Et ça
c'est
a
c'est
fait...
petit de ouf.
C'est petit de ouf, oui. Ouais. Et en fait, ça a fait polémique sur TikTok. D'abord parce que les gens pensaient que c'était un PR stunt. C'était un geste...
un coup monté médiatique.
Voilà, un coup monté médiatique. Merci, Anthony. Je perds mes mots. Et en fait, il s'avère que pas du tout, parce qu'elles ont reçu pas mal de commentaires, Shannon et Becky. Et elles n'étaient pas du tout au courant que cette chanson allait être écrite sur elles. Et bah, elles l'ont très mal vécu, parce que bah, voilà, c'est un peu bof. Et je pense que c'est un bon moyen de rebondir sur le fait que c'est pas cool, en fait. Là, genre, le consentement dans tout ça, voilà, c'est leur couple. Peut-être qu'elles n'avaient pas envie d'être mises en avant comme ça, surtout dans des paroles aussi... aussi explicite, parce que pour le coup, je vous invite à aller écouter la chanson et regarder la traduction, mais c'est assez particulier. La chanson est un bop, mais en dehors de ça,
on dansera sur cette chanson gênante.
Un kiff nuancé, du coup.
Un kiff nuancé, oui.
Mais oui, donc le kiff, c'est la chanson.
La chanson,
mais
ouais.
Pas le contexte. Ouais.
Pas le
mais
contexte.
Parce que, en vrai, là, tu viens de parler de consentement, c'est une question intéressante. Je sais pas si c'est la notion la plus adéquate en l'occurrence, mais on peut élaborer. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est un trait assez courant de sublimer une douleur par l'art ou de sublimer des relations tortueuses ou autres par l'art. Mais là, en l'occurrence, il n'y a même pas d'effort d'anonymisation, en fait.
C'est ça. Elle a vraiment name drop, ouais.
Ouais, mon Dieu. D'accord, ok.
Et ça a été assez, assez brutal parce qu'en plus, la nouvelle petite amie de Shannon, elle est anonyme en fait. Donc elle n'a pas l'habitude d'être sous le feu des projecteurs.
C'est hyper violent.
Et tous ses commentaires sur tous ses réseaux sociaux, c'était mon Dieu, t'as vu la chanson de Fletcher sur toi, c'est vrai que t'es belle, nanana. Et c'est un peu malsain en fait au final quand on y pense. Et j'avoue que. Ça aurait été malin si ça avait vraiment été planifié, que c'était un coup promo, et ça aurait été assez smart. Mais en sachant que là, c'est pas, il n'y a pas eu d'autorisation de demander et que personne n'était au courant, mis à part Fletcher, j'avoue que ça m'a un petit peu gâché quand même la sortie du titre. Je pense que je l'aurais plus apprécié en sachant que c'était quelque chose de... un peu plus
Respectueux,
voulu,
juste
ouais voilà, c'est ça,
parce que c'est hyper violent. Elle a été exposée du jour au lendemain dans une chanson qui l'hypersexualise.
Ouais, en fait, ouais. C'est ça aussi, c'est l'aspect super sexuel du truc. On dit pas Becky est jolie, on dit Becky est super bonne et j'ai envie de me la taper et tout. Enfin, c'est quand même je serais vraiment pas très contente si demain quelqu'un faisait ça sur moi, tu vois.
Et ça parle de Becky, mais est-ce que ça parle aussi de son ex en mode oui, j'ai envie de me la taper parce que c'est ta nouvelle copine et tout?
Ouais,
enfin,
en fait,
c'est dans l'histoire.
Elle fait référence au fait que en fait, elle a vu une photo de Becky avec un t-shirt de son ex. Et elle est en mode ouais, elle est trop bonne dans le t-shirt de mon ex.
Creepy.
Et tout. Et surtout, elle fait référence au fait que Becky doit comment dire? Comment est-ce qu'il y a un langage à respecter sur LMK ou pas?
Non, absolument pas.
Non.
Comment elle doit bien se faire baiser vu qu'elle sait qu'en gros, Shannon, voilà, c'est un bon coup.
Ah, c'est horrible.
Ouais, c'est assez...
Non, c'est hyper glauque.
C'est un peu glauque, ouais.
C'est un guilty kiff.
C'est ça, c'est un guilty kiff.
Un plaisir coupable en bon français, oui.
Ça va, je tente, je cherche des jeux de mots, ça va. Je suis un homme international comme tal. À l'international, ouais. Etc. C'est pour ça.
J'ai vraiment pas du tout la rêve.
J'ai pas compris.
Tal, merde, vous étiez où en 2012?
Tal, genre
j'ai fermé les yeux. Bah, elle a fait une chanson qui s'appelait L'International, non? Ça vous dit rien?
Alors, je ne la connais pas.
Bon, LM Crado, LM Caribou, aidez-moi. Je n'étais pas seul à écouter cette chanson. Cette chanson existe.
Ah, tu l'écoutais de ton plein gré?
Je ne suis pas folle, vous savez. Mais non, ça passait dans les clips que je regardais à l'époque. Je comptais pas provoquer un malaise international
non,
en faisant des références à Tal.
En 2012 pour pas avoir cette référence. Mais déjà, je suis en mode, c'est qui Tal, tu vois.
Normalement, toutes les catastrophes dans l'humanité, tu sais ce que tu faisais à ce moment-là. Tu faisais quoi au moment de la sortie de À l'international?
2012, j'avais quel âge? J'avais 20 ans.
C'est un truc par rapport au foot?
J'étais bourré, c'est sûr.
Non. C'est mais... pas grave, c'est juste un titre que vous avez pas. On va pas bloquer 15 minutes là-dessus. Genre.
Ce que je voulais dire, c'est que t'as pas forcément à te sentir coupable de vouloir sublimer ta douleur par l'art.
Oui.
Mais juste là, genre, exposer comme ça quelqu'un qui a rien demandé.
Ah non, c'est dégueu.
Pour l'hypersexualiser et en plus mettre mal ton ex, parce qu'il y a vraiment une espèce de truc presque de l'ordre de la vendetta, de la vengeance. Et de vouloir faire mal. Enfin,
t'en tires un bénéfice financier en plus derrière.
C'est ça,
grave. Genre, tu monétises ça.
La chanson. C'est incroyable parce qu'elle est dans le top sur iTunes en fait.
Non mais c'est sûr,
les gens adorent le drama.
Si tu m'avais pas expliqué ça, j'aurais jamais écouté cette chanson. Maintenant, dès que je vais sortir de cette pièce, je vais l'écouter. Tu
pareil, j'avoue.
Par curiosité, vous allez voir les paroles, c'est assez.
C'est mal. Est-ce qu'on l'écoute groupé pour faire qu'un seul écoute
Non, mais je vais l'écouter sur les comptes pirates YouTube, tu sais, qui repostent les chansons avec des paroles et des vieilles photos comme ça, je lui donnerai pas l'argent.
Une écoute militante.
Toujours.
Ok, bon, on va transformer ton kiff en disant que ton kiff c'est de pirater cette chanson.
Exactement, on ne paye pas pour.
Qui est une bonne chanson, mais un mauvais move d'un point de vue aristotélicien. Non. Voilà.
Qu'est-ce que ton kiff c'est de nous raconter cette histoire
ça. En vrai, ouais, mon kiff c'est aussi un peu de raconter l'histoire parce que c'est vraiment du drama TikTok lesbien au taquet dans lequel je me suis retrouvée sans vraiment le vouloir, l'algorithme TikTok. Je sais pas, est-ce qu'il a senti que j'avais envie d'être petit en ce moment? Je pense que j'atteindrai jamais ce level parce que c'est vraiment de l'irrespect à ce stade-là. Mais ouais, enfin c'est assez ouf, surtout d'une figure aussi publique et qui se revendique hyper bienveillante.
Bah non, mais
c'est toujours comme ça. Très dommage.
J'espère qu'il y a Anguille sous roche et que en fait elle est au courant ou quoi, quelque chose. Mais parce que si c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est gravissime en réalité. Mmh. Et même en plus, ça se passe aux États-Unis, il y a de quoi porter plainte largement.
Ouais, grave.
Tu peux pas citer quelqu'un n'importe qui existe vraiment dans la vraie vie et reconnaissable comme ça sans répercussion, surtout si c'est dégradant en fait.
Maybe c'est que la première étape du drama et genre dans quelques années il y aura un biopic américain et ce sera joué par Jodie Foster, ça va être incroyable.
Et vous l'aurez entendu en premier sur LMK.
Exactement.
Premier sur l'info.
Exactement, premier sur l'info.
Mais si vous voulez écrire des choses à vos ex, envoyez-les à ce que j'aurais dû dire à mon ex en fait.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire tout ce drama alors qu'elle aurait simplement pu participer à ce que j'aurais dû dire à mon ex. Le podcast d'Aïda Djoupa et Mademoiselle, réalisé par Mathis Grosso, qui Bonsoir. Revient à la rentrée.
C'est pas moi qui reviens à la rentrée, enfin, moi, je suis déjà là. Mais le podcast revient à la rentrée. Aïda, quel est ton kiff? Soupir.mp3.
De quoi? Pourquoi tu sais? Je sais pas, parce que moi... il a repris la formulation de ma proposition subordonnée relative alors que j'ai chaud. Et maintenant, je suis grognon.
Ceci est clairement le titre de l'épisode. Hein, subordonnée relative, ça clique. Hein. Ah, je peux vous le dire, on va buzzer.
Les profs
enfants.
De français cliquent.
Je cliquerai de où?
T'as voulu faire prof de français, Anthony, genre
j'y
tout
pense
un
encore,
sens.
Figure-toi. Ah, voilà.
Je sais même pas si c'était une proposition subordonnée relative en réalité.
Mais je sais même pas de quoi vous parlez en fait. Donc, j'étais là pourtant.
Anyways, mon kiff est un kiff corporate et professionnel, ce qui n'est pas dans mon habitude dans Laisse-moi kiffer. Pas parce que je n'aime pas mon travail, mais parce que j'essaye de me souvenir que j'ai d'autres choses dans ma vie. Et du coup, je m'en souviens en parlant dans Laisse-moi kiffer. Mais, pardon, j'ai un chat.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais j'ai eu envie de vous parler de mon taf cette semaine parce que la semaine dernière, on est le combien? Je sais jamais quel jour on est.
On est jeudi, truc juillet.
Bref, la semaine dernière,
n'hésitez
je
pas,
pense,
pour les infos.
Puisque je n'étais pas au Laisse-moi kiffer de la semaine dernière, c'était la semaine dernière.
Ouais.
La semaine dernière est sortie une enquête, un article de Mademoiselle, qui est une enquête approfondie qui a duré des mois, que j'ai menée avec Maëlle Lecor, qui est notre journaliste société, que vous avez probablement déjà entendu dans LMK. Je sais qu'on a fait au moins un live Twitch ensemble. Et,
oui, elle est déjà passée dans LMK, Maëlle, plusieurs fois je crois d'ailleurs. Mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue.
Ça fait un petit
Mais vous
moment.
La connaissez si vous êtes des vrais aficionados, aficionadas.
Grave, si vous êtes sérieux et sérieuse sur votre écoute de Laisse-moi kiffer, vous connaissez Maëlle Lecor. Elle a aussi fait le podcast de la présidentielle de MAD qui s'appelait Un coup de pied dans les urnes.
Un coup de pied dans les urnes,
super,
qui est toujours
qui est
disponible.
Excellent titre. Et voilà, donc Maëlle et moi avons passé les 6 derniers mois de notre vie professionnelle à, entre autres, enquêter. Enquêter sur un réalisateur qui s'appelle Yoann Manka et qui a été accusé très récemment dans la presse par son ex-compagne Judith Chemla de violence conjugale, de violence psychologique et de harcèlement. Sans vouloir trop rentrer dans les détails, parce que, premièrement, l'enquête existe et vous pouvez aller la lire sur mademoiselle.com, mais aussi parce que tout dérapage de ma part pourra être sanctionné d'une plainte en diffamation.
Ouais.
Donc je vais rester concentrée sur les 50% des infos aujourd'hui.
We are on the eggs, finalement.
Quoi ?
Nous sommes sur des œufs.
Tous les jours dans ce podcast.
Personne ne parle anglais ici. Merde. Shit.
Ah, t'avais parlé en anglais.
We are on the eggs. C'est quelle langue ? Shakespeare.
toujours est-il que donc il y a quelques semaines maintenant, au début du mois de juillet, vous avez peut-être vu passer une prise de parole de Judith Chemla sur France Inter ou sur Instagram, qui dénonçait des violences conjugales qu'elle avait subies il y a un an. Ce réalisateur-là, qui s'appelle Yoann Manka et qui à l'époque était en couple avec Judith Chemla, l'a agressé en lui jetant un téléphone portable au visage. Elle a eu des grosses marques, elle a posté sur Instagram un an plus tard, donc il y a quelques semaines ou jours, je sais plus, des photos de son visage tuméfié. Et à l'époque, elle a porté plainte au moment de la première à Cannes du film de ce réalisateur-là.
Mes frères et moi, quelque
mes
chose
Mes frères
comme
et
ça.
Moi, voilà, ça. Pour un film qui s'appelle Mes frères et moi. Nous, on a été... mise au courant de près ou de loin du fait que, en fait, au moment où on a appris que Judith Chemla avait porté plainte contre lui, on a été mise au courant que c'était peut-être pas la première fois que ce réalisateur-là était violent avec ses conjointes, et en tout cas que c'était pas la première fois qu'il y avait une de ses conjointes ou ex-conjointes qui portait plainte contre lui. Donc on a commencé à se renseigner un petit peu. Et voilà, il nous a fallu 6 mois de travail de long terme où on a interrogé des témoins, on a remonté le fil de la vie sentimentale en fait de ce monsieur sur à peu près une décennie voire plus, et on y a trouvé effectivement des schémas, notamment de harcèlement avec ses ex-compagnes au moment de la rupture. On a trouvé des occurrences de faits de violence psychologique, on a retrouvé des faits de violence physique aussi. Et bon, ça a été un travail d'enquête qui a été difficile parce qu'en fait, il n'y a rien de kiffant à recevoir des témoignages de victimes de violences conjugales. Hein. C'est clairement pas ça mon kiff aujourd'hui. Mais ça a été, je pense, à la fois... positif, ou en tout cas relativement positif pour les victimes de pouvoir s'exprimer à ce sujet-là et de pouvoir démontrer qu'il y avait un vrai schéma répété de la part des actions de ce mec-là, parce que c'est aussi des choses qui arrivent quand on est dans des relations qui peuvent être violentes, de se dire que en fait, c'est nous le problème, qu'en fait c'est notre faute, qu'en fait c'est qu'avec nous que la personne qui est en face peut être violente ou dangereuse. Et souvent c'est faux et c'est clairement jamais notre faute en fait si on se retrouve dans des situations de violence. Et c'est aussi une enquête qui a permis de mettre en lumière des comportements qui ne sont pas toujours pensés ou perçus comme des comportements violents, notamment la violence verbale, l'effet de harcèlement, le fait de passer 2 heures devant chez quelqu'un à sonner en boucle pour essayer de forcer la personne à venir sortir de chez elle et parler avec soi. Bon, en fait, c'est des faits de violence et ce n'est pas toujours considéré comme tel. Dans le cadre de cette enquête, on a assisté au procès qui opposait Judith Chemla à ce monsieur. Et typiquement, lors du procès, la juge, pour parler des faits de harcèlement, parlait d'assaut amoureux pour décrire les actes de Manka envers Judith Chemla, ce qui est absolument hors sol.
Assaut amoureux being le new crime passionnel, ce genre de terme à la con.
Et en fait, dans les cas, encore aujourd'hui en France, on considère les violences domestiques et les violences conjugales comme des choses qui relèvent de l'intime, comme des choses qui relèvent de « non mais il est amoureux, du coup il se rend pas compte, non mais il a pas fait exprès, non mais il est jaloux parce qu'il pense que sa femme l'a trompé et du coup il pète un plomb ». On parle de ça beaucoup, tu vois, du pétage de plomb, de « c'est arrivé une fois ». La réalité, c'est que tout ça, c'est de la violence, que ça change rien, que ce soit de la violence conjugale ou pas, et que c'est important de pouvoir en parler. Je suis vachement honorée d'avoir pu recueillir le témoignage de toutes ces personnes qui ont voulu participer à l'enquête et qui ont été hyper courageuses, parce que ça demande un courage fou de nous dire les choses qu'elles ont dites et de les assumer, que ce soit anonymement ou nominativement dans la presse. Et voilà, c'était un boulot assez intense qu'on a mené avec Maëlle, et on est très contente d'avoir pu participer à ça et à cette conversation. Les témoins ont fait le plus gros de tout ce qu'il y avait à faire de toute façon dans ce travail, c'est-à-dire décider de prendre la parole et le faire, quoi. Mais c'était quand même important d'en parler dans Laisse-moi kiffer, parce que je pense que c'est des choses qui méritent d'être dites aussi. C'est aussi cool de savoir que on a eu le temps de mobiliser ce temps de travail-là, on a eu le temps de faire un travail de fond qui a mobiliser plein de témoins, mais aussi plein de travail de recherche, de stalkage parfois, parce qu'en fait, pour retrouver des témoins dans le cadre d'une enquête, bah, parfois, t'as rien d'autre que Internet et toi-même pour essayer de trouver qui est joignable ou ce genre de choses. Et voilà, je sais pas comment conclure ce kiff qui part un peu dans tous les sens et qui est semi-kiff parce que c'est pas oui. Cool de devoir écrire sur ces choses-là.
Vous aurez l'article de toute façon dans les notes du podcast, et je pense que l'article parle de lui-même en fait sur tout ce dont tu parles. Enfin.
Et aussi cet article que vous avez écrit à quatre mains avec Maëlle Lecor, comme tu le disais, il se conclut aussi sur un espace avec un encadré avec plusieurs ressources si jamais vous êtes témoin ou victime de violence conjugale autour de vous. C'est important à votre mesure, à votre échelle et sans vous mettre en danger de pouvoir essayer de sortir de cette situation. Et voilà, il y a une asso qui fait un travail formidable, notamment qui s'appelle En Avant Toutes, qui participe notamment à quelque chose qui est un outil de sensibilisation et de prise de conscience aussi pour comprendre si on est victime ou non de violences conjugales et de violences dans le couple. C'est le violentomètre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une espèce de spectre avec plein de situations différentes, et ça vous aide en tout cas à évaluer est-ce que oui ou non c'est normal dans ma relation, parce que parfois on est perdu en fait. Et comme tu le disais, Aïda, parfois on peut se dire ah oui, mais mon ex ou mon mec qui vient sonner à ma porte plusieurs fois dans la nuit, est-ce que c'est un acte romantique ou pas? En fait, parfois on n'arrive pas à se rendre compte que c'est violent. Et donc le but, c'est pas du tout de vous infantiliser ou quoi, mais c'est vraiment d'aider à prendre conscience, parce que c'est difficile en fait, parce que c'est douloureux, parce que c'est cause de souffrance et d'égarement aussi. Il y a aussi parfois beaucoup de manipulation dans ce genre d'affaires et de situations. Donc voilà, je parlais du violentomètre. Et enfin, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est jamais de votre faute. On n'est jamais responsable des violences qu'on subit, quoi.
Ouais. Et aussi, peut-être rappeler le 3919, qui est un numéro qui est quand même hyper utile.
Ouais.
que j'ai eu malheureusement l'occasion d'appeler et ils ont été vraiment hyper à l'écoute au bout du fil et hyper hyper réactifs, donc c'est bien de le rappeler aussi en plus de En Avant Toutes.
Voilà, sachez qu'en plus du coup sur Mademoiselle, il y a régulièrement quand même des ressources là-dessus qu'on pourra vous mettre à disposition. Enfin, on pourra rappeler toutes les ressources que vous avez rappelées à la fin de l'article dans les notes du podcast, encore une fois.
Ouais, vous avez plein de ressources, plein d'infos, et si besoin, vous avez plein de choses, pas seulement sur Mademoiselle, mais aussi sur les sites de l'asso En Avant Toutes.
Je la joue corpo, mais oui, en vérité, bien sûr.
Et sur plein de sites du gouvernement, et on vous mettra de toute façon les ressources nécessaires, si besoin, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, parce que c'est important d'en parler, et que voilà, c'est cool d'avoir l'occasion de le faire aussi dans Laisse-moi kiffer, parce que c'est partout et que tous les moyens sont bons pour sensibiliser aussi à cette cause-là.
Bah, merci d'avoir enquêté avec Maëlle Lecor, Aïda, Dupa.
Merci d'être aussi solennelle.
Non, mais je répète vos noms parce que c'est important.
Oui.
Ouais, et elle est vraiment très très intéressante, l'enquête. C'est terrible.
Et puis elle s'inscrit dans un truc qui est intéressant par rapport à Mademoiselle. Du coup, c'est qu'on a un peu plus d'enquêtes ces derniers temps. On en a une vidéo qui est sortie à l'heure où vous écoutez cet épisode.
Oui, sortir, ouais.
Donc de toute façon, vous allez pouvoir la regarder, qui parle de soumission chimique. Donc voilà, on a des thématiques qui se développent sur Mademoiselle. N'hésitez pas à aller checker le site où vous aurez plein de contenus, et parfois des contenus très drôles et parfois des contenus légers. On a plein de choses, plus que Laisse-moi kiffer, mais vous le savez déjà puisqu'on vous mitraille d'infos là-dessus. Mais voilà, Mademoiselle est un site riche avec des personnes très talentueuses, et toutes ces personnes ne participent pas nécessairement à Laisse-moi kiffer, et c'est pour ça qu'on est content aussi à chaque fois de mentionner leur travail, parce que vous les connaissez pas et c'est dommage. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Anthony, c'est quoi ton kiff?
C'est difficile de rebondir après ça, mais t'inquiète surtout pas, Aïda. Et merci beaucoup, au contraire, pour ton kiff hyper important. Mon kiff est totalement différent et en même temps, peut-être que ça peut être utile par rapport à tout ça aussi. C'est en fait, récemment, je me suis posé avec une très bonne amie à moi que vous avez déjà entendue dans Laisse-moi kiffer d'ailleurs, Audrey Coupé de Karmadec.
Audrey
qui est une journaliste.
Je l'aime.
Une journaliste société et psychosexo que j'aime aussi énormément. Et qui aussi est artiste par ailleurs, illustratrice, dessinatrice et collagiste finalement. Et en fait, ça fait assez longtemps qu'on se dit qu'on va le faire et on l'avait jamais vraiment fait, mais je voulais assister ou qu'elle m'apprenne à coller. Ça peut sembler évident, mais en fait, je n'osais pas, je me suis jamais lancé. Je parle pas de collage dans la rue, comme peuvent le faire les coloreuses féministes dans les rues de France et de Navarre et même au-delà, mais plutôt de collage en tant qu'œuvre artistique sur une petite toile de papier canson ou autre. Et du coup, récemment, on s'est posé chez elle. Je pensais que ça allait prendre genre 2 heures ou 3. Et en fait, ça nous a pris genre 6 heures parce qu'on faisait que de parler et de prendre grave notre temps et tout. Et en fait, c'était hyper méditatif comme expérience parce que, je sais pas, j'ai dû me ramener chez elle vers 10 heures. Et on a papoté c'est en... Matinale. Bah, j'ai trouvé ça tard, mais...
Si tu viens chez moi à 10 heures, je dors.
J'avais compris 6 heures. Du coup, j'étais en mode waouh.
Non, 10 heures et on est resté 6 heures. Okay. Et... Donc je me suis ramené chez elle avec quelques magazines, avec de la colle UU qu'on a dans les fournitures scolaires quand on est en primaire par exemple, mais même au-delà en fait, il y a plein de gens adultes qui ont de la colle.
Et qu'on aime renifler parce qu'elle sent très bon.
Oui, non, mais la colle Cléopâtre sent meilleure je trouve.
C'est vrai.
À débattre, battez-vous dans les commentaires. mais c'est aussi très utile pour les adultes si vous voulez vous coller les sourcils ou si vous voulez faire des prothèses en latex, en maquillage FX.
Avec de la UU.
Ouais, c'est très
utile. Avec les bâtonnets.
Ouais, c'est très utile. C'est très pratique. On a un live Twitch avec une super drag queen qui fait du drag king sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, qui s'appelle Morphine Blaze. Elle m'a fait un maquillage SFX assez ouf il y a maintenant un an. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Twitch si ça pique votre curiosité, si vous voulez apprendre à faire des maquillages effets spéciaux avec de la colle UU.
Vous aurez ça dans les notes du podcast.
C'était une longue parenthèse pour dire qu'on s'est posé, je me suis ramené avec des magazines, avec de la colle, avec du papier canson, de la peinture acrylique... tout ça n'est pas forcément nécessaire, hein. Vous faites avec les moyens du bord et c'est ça qui est marrant aussi avec le collage, c'est que ça s'improvise assez facilement avec des choses qui traînent chez vous. Ça peut être des chutes de tissus, ça peut être des vieux magazines ou même d'autres choses encore comme des posters ou des prospectus dont vous ne savez que faire. Et en fait on papotait et en fait c'était non seulement méditatif mais même assez cathartique parce qu'on s'est mis à parler de plein de trucs alors qu'on est en train de découper des feuilles dans les magazines et en fait même là sans même y réfléchir on savait pas ce qu'on allait faire et en fait je me suis rendu compte au bout d'une heure de découpage dans des magazines que j'avais découpé que des femmes noires, j'ai même pas fait exprès et je peux dire que c'était assez peu de personnes finalement parce qu'il y a assez peu de femmes noires dans les magazines, du coup voilà, enfin vraiment c'était très révélateur de leur absence, enfin de leur rareté dans ces magazines là et de leur aussi fétichisation parce qu'elles étaient toujours dans des postures particulières qui racontent beaucoup de la façon dont on les met en scène, dont on les perçoit socialement et dont on veut bien d'elles. En fait c'était souvent des femmes noires claires de peau, souvent avec des cheveux lissés, voilà, dans des postures animalisantes et tout, et j'ai aussi découpé d'autres choses par ailleurs, et en fait on s'est mis à coller en parlant de plein de choses, notamment de représentation, de fétichisation, d'identité de genre, d'expression de genre. Et on s'est beaucoup confié à l'une à l'autre et c'était assez extraordinaire comme expérience parce que c'était une brèche spatio-temporelle, quoi. Et à la fin, je dis pas que le collège était fabuleux, mais il portait beaucoup de nous. Enfin, elle en a fait un et j'en ai fait un de mon côté pendant cette discussion. Et ça portait beaucoup de nous, ça portait beaucoup de notre échange, ça portait aussi beaucoup de moi-même, le mien en tout cas. Et c'est vraiment une expérience que je recommande. Parce que à la portée de toutes et tous, nous on avait des ciseaux, mais si vous avez un cutter, c'est mieux. soyons réalistes. Mais voilà, enfin c'est vraiment un truc qui coûte pas cher, qui coûte même rien en fait, si vous avez de la colle qui traîne chez vous et des ciseaux et des magazines ou du papier quoi. Et aussi ça m'a permis de réfléchir en fait, et j'ai réalisé dans mon imaginaire, dans les choses qui m'inspirent, les artistes qui m'inspirent, il y avait plusieurs artistes collagistes en fait. Du coup, je vais vous citer deux artistes collagistes que vous pouvez aller voir, je pense qu'ils peuvent vous intéresser. Je pense à Anna Hoche, qui est une artiste allemande qui a beaucoup travaillé au début des années, qui travaillait beaucoup, pardon, dans les années 20,
Cette artiste, elle prenait beaucoup de recyclage d'ouvrages de dames, c'est-à-dire la presse féminine du XXe siècle. C'était des chutes de tissu, des patrons de couture, pour faire une critique féministe de la société, de consommation, de la vie politique, de l'invisibilisation des femmes ou de leur relégation au poste, au foyer, en fait. Et je pense aussi à Barbara Kruger, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, parce qu'elle a beaucoup inspiré la mode d'aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez la marque de streetwear Supreme, mais c'est une marque, même son logo est assez inspiré par elle. C'est ce qui est assez ironique quand on connaît son parcours et son profil. C'est une artiste postmoderne qui est née en 45 aux États-Unis, qui est encore vivante, donc elle a 77 ans aujourd'hui. Et c'est une femme qui est assez proche de... Enfin, en tout cas, son art consiste à prendre plutôt des images des années 50, donc qui peuvent sembler assez rétro pour notre œil contemporain, et en noir et blanc, sur lesquels elle pose des messages un peu comme des slogans. L'écriture est blanche sur un fond rouge, un carré rouge souvent, et c'est des slogans qui sont assez percutants. Ça peut être I shop therefore. Oula, j'ai un accent vraiment pourri, je suis désolé aujourd'hui. I shop therefore I am. Donc je shop donc je suis. J'achète, je fais du shopping donc je suis. Qu'elle signe en 87. Il y a aussi le futur appartient à ceux qui peuvent le voir. Il y a aussi des choses sur l'amour qui serait à vendre. Donc c'est une critique de la société de consommation, mais aussi du marché sentimental ou sexuel et tout. Donc c'est assez intéressant. Barbara Kruger, elle s'appelle. Donc elle a beaucoup commencé à travailler le collage dans les années 80. Elle était assez populaire à cette période-là. Et voilà, donc j'avais d'autres personnes à citer, mais j'ai déjà été assez long. Donc ce que je voulais dire, c'est juste genre faites des collages, amusez-vous, bricolez des trucs chez vous. C'est assez méditatif et ça peut même être cathartique. Et je sais qu'il y avait d'autres choses comme ça que j'avais pratiquées comme ça pour essayer de me détendre, apprendre à déconnecter, lâcher prise, me déconnecter des écrans aussi. Et en fait, ça ne m'allait pas du tout. Enfin, j'ai essayé de faire du coloriage, ça marchait pas. Enfin, j'arrivais pas à me plonger dedans et le collage, ça m'a vraiment inspiré. Donc voilà.
Petite question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir ton collage?
Ok, j'essaierai de le poster le jour où
le Met Museum.
I wish, mais non, je suis pauvre et je ne suis pas artiste et je n'ai pas de cote, donc je ne serai sûrement pas au Met. Mais je vais le mettre en story sur mon compte Instagram, donc vous pouvez le regarder sur mon compte Instagram, Anthony VNCT, A-N-T-H-O-N-Y-V-N-C-T. Peut-être même que ce sera reposté sur LMK.
Oui.
Je voulais rebondir sur ton kiff, Anthony, si on a le temps et qu'on a le droit de digresser un peu plus. Notamment sur cet aspect de pendant que vous étiez en train de faire le collage avec Audrey, vous avez réussi à vous raconter plein de trucs et à beaucoup vous confier. Je sais pas si c'est un truc général ou si c'est une. Enfin, s'il y a des gens qui ont vraiment théorisé le truc de faire des activités manuelles avec des gens, ça aide à prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on perçoit de nous et du coup à parler plus facilement ou à se dire plus facilement les choses. Mais je sais que moi, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu, notamment quand je bossais avec des ados et avec des ados qui avaient des difficultés particulières. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans LMK, mais jadis, quand j'étais jeune, Non, mais c'était il y a genre 6 ou 7 ans, je sais plus. J'ai bossé en Argentine dans une prison pour adolescentes.
Attends, quelle partie Attends, c'est avant ou après que tu joues de l'orgue électrique, ça?
T'as eu combien de films?
Mais j'ai toujours joué de l'orgue électronique, Mathis, enfant.
Et que tu fasses de la luge sur gazon, c'était quoi ton truc?
Le mountain board, c'était pas de la luge, c'était un snowboard pour gazon. Et j'en faisais tellement bien que j'étais 3e fille mondiale, ok? C'est juste parce qu'on était 3 filles à en faire sur Terre.
Un jour, une
coup,
vie d'Aïda.
Très bien classée.
Incroyable.
Non, mais c'était il y a longtemps et c'était dans le cadre d'un stage à l'étranger. Et bref, toujours est-il que y avait à la fois la barrière de la langue avec ces ados avec qui je bossais, mais il y avait aussi la barrière du trauma qui était assez intense. C'était difficile de communiquer avec elles sur ce dont elles pouvaient avoir besoin de la part de quelqu'un comme moi, qui est une go française de 20 piges qui arrive et qui dit qu'est-ce que je peux faire pour toi. La meuf, elle a 18 ans, elle est en prison, elle est en mode qu'est-ce que t'as à m'apporter, tu vois, ça n'a aucun sens. Et en fait, le fait de faire des activités manuelles et notamment des collages, c'est un truc qu'on a beaucoup fait, par exemple. Pendant qu'on faisait des collages ou de la cuisine, ça marche vachement bien pour ça, la cuisine. Ça les aidait vachement à s'ouvrir et ça a donné lieu à des conversations qu'on pouvait pas avoir dans d'autres contextes. Et des conversations qui étaient hyper importantes parce que c'était celles où elles arrivaient justement à me dire, elles, ce qu'elles attendaient le plus de moi, ce qui pouvait les aider, ce dont elles avaient envie, ou les moments où elles arrivaient un peu plus à parler de leurs émotions, etc. Et où on avait l'impression d'être dans l'échange et pas forcément dans le rapport d'autorité aussi. Et voilà, si jamais vous êtes quelqu'un qui, comme moi par exemple, a du mal à parler de ses émotions avec ses potes ou dans certains contextes, faire des collages, ça marche vraiment super bien. En tout cas, moi je l'ai expérimenté aussi. les collèges, la cuisine. C'est une très bonne technique pour réussir à dire les trucs qu'on n'arrive pas à dire quand on est juste en terrasse à boire des spritz un lundi, par exemple, ou ce soir.
Ou alors, il faut plus de spritz qu'il ne faut de col. Voilà. Donc, économiquement, réfléchissez bien.
Mais c'est drôle parce que justement la semaine d'avant avec Audrey, c'était pas à 10h, c'était à 11h cette fois-ci, mais on s'est retrouvés pour cuisiner un colombo vegan. Le colombo, c'est une spécialité antillaise qui ressemble à un curry en fait, parce que l'Inde, bref, qu'importe. Et du coup, c'est un curry de légumes en gros. Et en fait, on a cuisiné comme ça pendant 2 heures, je crois. Et il y avait une troisième amie qui était là, qui est photographe, qui nous prenait en photo. Pour un projet de recherche à elle. Et c'était et en fait, on s'est beaucoup livré l'un à l'autre à ce moment-là aussi en cuisinant. Parce que je pense que, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que, Aïda, c'est que, en gros, quand t'as, mon hypothèse, c'est que quand t'as les mains prises par quelque chose de concret, ça fait que t'es moins focalisé sur ce que tu racontes, sur la mise en scène de toi-même, sur la réflexion, comment tu vas le dire et tout. Et du coup, tu te livres un peu plus sans filtre. Tu réfléchis moins à ce que tu vas dire. Et ça sort beaucoup plus spontanément. Et aussi, plutôt que si on te dit « Ah tiens, raconte-moi tes émotions, dis-moi comment tu te sens, toi ça va, comment ça va ?» Bah, comme ça, de but en blanc, t'as pas forcément envie de te confier sur ta vie, ton œuvre, quoi. Alors que si t'es occupé à cuisiner et que tu... Bah là, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, on s'est mis à parler de choses dont on n'avait jamais vraiment discuté explicitement, c'est-à-dire notre identité de personnes antillaises qui vivent en Hexagone. Bah, en fait, on le sait, elle et moi, qu'on est afro-descendants, elle de Guadeloupe et de Martinique et moi de Martinique, mais on n'en discute pas tous les 4 matins comme ça explicitement. Et là, en fait, en cuisinant, bon, il s'avère que c'est une spécialité antillaise, mais on en a parlé explicitement et beaucoup plus que jamais, en fait. Et sans doute beaucoup plus authentiquement que si on s'était dit « Alors, aujourd'hui, on va parler de notre identité d'afro-descendant explicitement, express et à l'ordre du jour, écrit sur, notre calendrier. » Bah non, en fait, là, c'était vraiment pas prévu et c'était peut-être encore plus beau, quoi.
Les conversations spontanées, c'est toujours les meilleures de toute façon.
Merci pour ce kiff, Anthony.
C'est compliqué, sachez techniquement qu'un micro vient de nous lâcher, donc on fait ce qu'on peut, mais on a l'impression d'être un espèce de poulet à qui manque une patte, et c'est compliqué. C'est compliqué de marcher.
Et toi, Mathis, c'est quoi ton kiff ?
Mon kiff, je vais le faire assez rapidement parce qu'on dépasse l'heure butoir de notre temps de travail, heure après laquelle nous nous autodétruisons.
Grave, après j'ai un date avec mon mec.
Ah, oh, ah non, alors attendez, moi je veux pas louper ça parce que monsieur Aïda il est génial, donc je veux pas louper ça.
T'es pas invité au date, Mathis ?
Non, mais je veux pas que
il
tu
va
loupes
tenir
ça.
La chandelle.
je fais bien la bougie. non, mon kiff, tout simplement, on en a déjà un petit peu parlé dans cette émission, mais du coup, vraiment, en regardant le dernier épisode, j'étais en mode quand même, je suis un peu obligé d'en parler, c'est Drag Race France parce que j'ai suivi pas mal de saisons de RuPaul Drag Race. Alors, la version américaine d'abord, et puis la version UK m'a poussé à déserter la version américaine en mode c'est tellement mieux avec des anglaises, et depuis que j'ai vu la version française, je suis chauvin, je ne veux plus jamais aller voir ce qui se passe chez les autres, ça ne m'intéresse pas, partez. Non, tout simplement parce que je trouve que la version française, elle a été beaucoup plus forte que sur pas mal de points que les autres versions qui ont précédé jusque-là. Déjà parce que bah, RuPaul, on va pas se mentir, c'est une certaine école du drag qui a ses mérites, mais du coup qui, bah, petit point contexte, appartient à une certaine façon de penser le drag qui est une façon un peu datée, c'est-à-dire un truc très classico-classique de un homme gay qui se déguise en femme globalement. Et en fait, bah, le drag, c'est un peu plus que ça, c'est compliqué. Il y a eu pas mal de scandales autour de la transphobie de RuPaul. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de scandales, même sur l'ambiance en général de l'émission, qui est quand même une émission de télé-réalité, qui est du coup, donc la version américaine est disponible sur Netflix. La version anglaise, je crois pas, parce que c'est la BBC qui a les droits. Donc j'avais regardé, moi, à l'époque où je vivais à Londres. Et justement, j'avais été très frustré parce qu'il y avait des viewing parties et j'osais pas y aller parce que j'étais un peu tout seul à Londres. Et il y a eu beaucoup de choses que je me suis empêché de faire parce que j'étais tout seul. Et là, ce soir, justement, je vais à une viewing party de Drag Race France. J'ai trop hâte, je suis trop content parce que c'est la première où je suis dispo. Et en fait, là, je trouve que cette édition est beaucoup plus bienveillante que d'habitude, ce qui est un truc qui, moi, me plaît beaucoup, dans le sens où, moi, tout le truc du drama et des queens un peu bitch, ça ne me parle pas du tout. J'ai pas envie de voir des gens se tirer dans les pattes. Si j'avais envie de voir ça, je sais pas, j'irai voir la famille de mes potes. Ouais, je connais quand même beaucoup de gens. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens ont besoin de voir du drama comme ça sur écran. On peut faire du drama, on peut faire de la bonne télé, en fait, avec des gens qui tiennent les uns aux autres. On peut quand même être un peu sassy, on peut faire des blagues. C'est ok. Et là, en plus, les looks sont incroyables. Il y a une vraie vision française, il y a un vrai positionnement sur la mode. Il y a une vraie culture aussi autour de la mode. Du coup, on peut citer des références, etc. Et même moi, qui suis un gros profane, bah, j'arrive à y trouver mon compte et à comprendre un peu les choses. Parce qu'en plus, je trouve que cette édition, qui est du coup assurée sur France TV slash et qui est diffusée du coup sur France 2, je crois, hein. Ça a été, ouais, ça a été bel et bien validé là-dessus. Bah, c'est une version qui est très pédagogique et je me dis, si quelqu'un comme Madaron peut regarder ça et suivre le truc, bah, c'est que c'est gagné en fait. Et c'est trop bien parce que ça démocratise complètement l'art du drag et pourtant ça le dépolitise pas, qui était vraiment la critique que j'aurais fait pas mal aux éditions américaines qui peu à peu se sont politisées un peu sous le feu des critiques, on va pas mentir, mais de manière tellement superficielle où genre les petites notes de piano commençaient à résonner, c'était genre ah, moi ça a toujours été difficile. Et là, il y avait des récits de vie qui étaient genre triste, mais du coup c'était tellement monté télé-réalité que du coup t'arrivais même plus à y adhérer et c'était très individualisé, c'était très le ressenti individuel, alors que là c'est la France, donc c'est le pays des grèves, c'est le pays de la manif, c'est le pays d'une identité qui est politique, d'une identité qui est collective, et c'est régulièrement rappelé. Je trouve que les Queens cette année sont particulièrement conscientes de l'histoire dans laquelle elles s'inscrivent, et puis en plus on a un casting qui est un peu diversifié sur plein de thématiques, c'est-à-dire que bah, y a des queens racisées, il y a des queens grosse, il y a des queens à barbe, il y a des queens non binaires, il y a une queen transgenre, enfin il y a plein de profils différents qui montrent que le drag, en fait, c'est ce qu'on en fait. On vous a parlé plusieurs fois des drag kings dans LMK, bah, il y a aussi des gens qui se disent drag fuck, donc en fait il y a tout un océan de possibles dans le drag qui est incroyable parce que bah, c'est une discipline artistique, donc comme toute discipline, ses limites sont celles que les artistes fixent. Et voilà, moi je boude pas du tout mon plaisir devant cette saison 1 du coup de Drag Race France, qui est donc présentée par Nikki Doll, qui était candidate à une édition américaine il y a 2 ans maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 3, je suis peut-être déjà vieux, je ne sais pas. Voilà, cette personne qui est du coup qui insuffle une ambiance très bienveillante, enfin elle a l'air en tout cas appréciée par les queens. J'ai pas les bails en interne, mais de ce que je vois de la série en tout cas, c'est que l'esprit est pas du tout le même, on n'est pas du tout dans une compétition un peu basse, et bah ça fait du bien, ça empêche pas de quand même stan certaines queens, d'en avoir certaines qu'on aime moins que d'autres, parce que bah, c'est normal, mais voilà, vous saurez que moi je suis team La Grande Dame et team Paloma et team Soa de Muse, et j'ai vraiment du mal à choisir. mais en tout cas voilà, je passe un excellent moment, on s'attend à chaque fois avec Camille pour les regarder, et c'est très difficile quand on n'arrive pas à trouver tout de suite un moment de ne pas craquer, mais je tiens bon. Et voilà, vous saurez que mon kiff cette semaine, c'est Drag Race France. Voilà.
C'est un trop bon kiff. Moi, je plus sois le kiff de Mathis, car moi aussi, je kiffe chaque semaine sur Drag Race France. Allez regarder sur France TV slash ou sur France 2 quand ça passe. Mais je sais pas à quelle heure il.
Je sais pas non plus.
Je crois que c'est pas en prime time, non?
Ouais, il passe le samedi en fin de soirée, je crois.
Après, c'était pas censé passer du tout. Donc
ouais, oui, c'est ça.
Quand même été c'est une première victoire. Quoi.
C'est que le succès était suffisamment fort pour que ça passe sur France 2, ce qui n'était pas prévu de base, je crois. Et du coup, France TV slash, en fait, vous y avez accès gratuitement. Donc c'est ça aussi qui est génial, c'est que bah, Netflix, c'est payant et que c'était la seule façon d'accéder à l'émission jusque-là. Du coup voilà, vous avez une version gratuite à domicile, et en plus vous pouvez comprendre les références, vous pouvez comprendre les blagues, parce que ça c'était un vrai problème avec les éditions UK ou US. Typiquement ils ont une épreuve qui s'appelle le Snatch Game, qui est en fait un jeu d'imitation où les queens sont interrogées sur des questions, et le but étant de performer un personnage culte, mais c'est des trucs qui sont très 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 vraiment culturellement marqué, quoi. Et du coup, quand t'arrives avec les éditions américaines où vraiment ils sont en mode, ah bah je vais incarner telle star de la télé-réalité cultissime en 2012 ici, et toi t'es vraiment en mode. Et ça m'est arrivé même sur l'édition UK où je pensais que j'allais connaître plus de personnages. Et genre vraiment, à chaque fois, j'étais en mode, qui sont ces gens? Tu vois?
Bah, j'ai jamais regardé Drag Race d'autres éditions que la française. Ouais. Et justement, quand j'ai regardé pour la première fois Drag Race. Pour l'édition française, et justement il y a plein de trucs que je comprends pas parce qu'ils expliquent pas les règles.
Ah ouais.
Et du coup quand ils ont dit ouais on va faire le Snatch Game, tout le monde était ouais, et moi j'étais c'est quoi, et du coup ils sont tous transformés et tout, j'étais genre Ah, ok, d'accord. Mais j'avais pas compris qu'il fallait imiter une vedette locale, tu vois.
Ouais.
Et c'est juste, je me suis dit, ah, elles ont toutes choisi quelqu'un du paysage audiovisuel français. Cool, ok, good for them. Mais j'avais pas compris que c'était la règle, genre. Mais bon.
C'est compliqué, c'est une règle tacite, mais.
Mais en tout cas.
C'est vrai que ça aurait pu être encore explicité, mais sache que c'est plus clair que dans les autres versions. Alors peut-être que je loupais des trucs avec des bails de langue, mais dans les autres versions, on le questionne même plus. On part du principe que le public connaît et basta,
ouais.
Tu vois.
Oui, c'est grave, une émission d'initié. En fait, je la trouve. Enfin, c'est pas du tout une critique contre Drag Race France. Ni même forcément une critique, c'est juste un constat, c'est que je trouve que c'est vraiment... ça part beaucoup du principe que tout le monde connaît les règles et que tout le monde sait ce qui se passe. Mm-hmm. Et en fait, c'est vraiment présenté comme quelque chose pour les initiés, quoi. Et je me suis dit, ah, bah, je pense que ça aurait pu rencontrer un plus large public encore si ça avait été un peu plus généreux avec l'audience, en mode, si jamais demain ça passe sur France 2 en prime time, bah, que ma mère, elle soit pas larguée, quoi.
Okay.
Et je me suis dit, waouh, c'est une super émission, elle aurait pu être encore plus pédagogue, mais... Mais en vrai, good for them. Enfin, l'émission est vraiment très cool, très drôle et très divertissante et très politique aussi.
Bah écoutez, si la production de France TV/ nous écoute, ces fameux LM Caribou, prenez-en de la graine, explicitez vos règles. Sachant qu'en plus, il y a des personnalités de la télé trop chouettes qui sont invitées, donc c'est encore plus chouette d'ouvrir tout ça. Enfin, typiquement, il y a Daphné Burki dans le jury que j'aime beaucoup. Il y a Kiddy Smile. Il y a bah, du coup Nicky Doll qui présente. Et puis il y a Marianne James qui est invitée. Il y avait Bilal Hassani. Enfin voilà, ça mélange plein de figures que les gens connaissent potentiellement. Donc ça peut être aussi des moyens d'accéder à l'émission qui peuvent être intéressants. Voilà. Ça sent la fin.
It's time.
Le tout dernier Jasmin. Ne me lâche pas la main. Vous n'avez pas cette référence.
Juliette Armanet.
Voilà, il faut sortir le
style. J'étais sûre que c'était une chanson de Frange. J'en étais sûre et certaine.
De Frange !
C'est une chanson de Frange.
Mais c'est une vibe. C'est pas une critique, c'est une vibe, ok ?
Il y a pas de souci, c'est une chanson de Frange. J'accepte absolument cette.
T'as totalement tout dit, Aïda, c'est vraiment une chanson de Frange. J'avais pas la ref non plus, mais c'est très Frange, effectivement.
Vous saurez que Juliette Armanet, dont je suivais pas particulièrement le travail, est incroyablissime en live. Ça faisait longtemps que j'avais pas été matrixé comme je l'étais au Francofolie. Voilà, je pose ça là, c'est un tout petit bébé kiff.
Puis confirme, je l'ai vu en festival de jazz à Nancy, elle était incroyable.
C'est fou. C'est le moment de se quitter.
Ça va pour ta frange. Avec tu fais du patin à roulette, donc je te respecte un petit peu, même si tu le fais. Enfin, c'est bien d'apprendre.
Tu as essayé, c'est bien.
Laisse-moi quitter, on veut partir, il fait chaud. Je vous fais des bisous car c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser des anecdotes de stars, à nous laisser des messages boubou, mais pas trop parce qu'on en a beaucoup en attente, c'est compliqué, arrêtez de boire. Sur le compte @laisse-moi-kiffer, sur nos comptes perso @MathisGrosso, @Aitremadea, @AnthonyVNCT et @Coralie, je ne sais pas ton
New Americarma.
Voilà, New Americarma, ce qui est quand même un très très drôle. Profitez-en, vous rirez à la maison. On vous fait des bisous, on vous retrouve la semaine prochaine et en attendant, touchez-vous bien le kikif et oui, je l'ai dit, vous allez faire quoi ?
Bisous les LMK.
Des bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.